Mission terminée pour les facilitateurs. Ils ont quitté le territoire sans réussir à consolider l'accord de Bougival. Une aide de 264 milliards de francs sur 5 ans. Le Premier ministre détaille le soutien de l'État pour le plan de relance dans un courrier aux élus calédoniens. Le quartier de Donnerbeau va être complètement reconstruit. Les travaux sont officiellement lancés. En métropole, les policiers visés par des tirs de carabine à Castres. Ils ont été visés par deux bandes rivales sur fond de narcotrafic. Après Boualem Sansal, la France espère la libération de Christophe Glaize. L'Elysée choisit la stratégie du dialogue avec l'Algérie. Et puis en sport, nouvelle victoire des joueuses de l'équipe de France de handball en Coupe du Monde. Suzanne Wojcicka et ses coéquipières ont dominé l'Autriche ce matin. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Avant de développer tous ces titres, un regard sur les deux rendez-vous du vendredi. Le premier, c'est le magazine Transparence à retrouver dès la fin de ce journal. Bonjour Elisabeth Noir.
Bonjour Jean-François.
Et vous recevrez cette semaine Sonia Baquès.
Sonia Baquès, présidente de la province sud, chef de file des loyalistes dans les discussions institutionnelles. Ce sera l'invitée du magazine Transparence et elle sera interrogée, bien sûr, sur les discussions autour de l'accord de Bougival, sur la mission des facilitateurs, mais aussi sur le plan de relance annoncé aujourd'hui par le Premier ministre, et puis plus globalement sur l'actualité politique calédonienne et sur l'actualité provinciale. On se retrouve d'ici une demi-heure en compagnie de Sonia Baquès.
Et à 16h45, ce sera évidemment le club politique Radio Rythme Bleu.
Avec un sommaire particulièrement dense ce soir, bien sûr, la mission des facilitateurs et le projet de loi sur la consultation. Nous reviendrons aussi sur l'échange à l'Assemblée nationale entre Emmanuel Tchibaou et Naïma Moutchou et sur les mesures d'aide qui viennent d'être annoncées par le Premier ministre. Nous parlerons également du retour de Christian Théin et du congrès extraordinaire du FLNKS qui se réunit demain. Et enfin, si nous avons le temps, nous ferons un petit focus sur la fermeture de la Maison de la Calédonie à Paris. Un club politique qui débute ce soir à 16h45.
Thierry Lataste, Rémi Bastille et Benoît Lombrière ont donc quitté hier soir la Nouvelle-Calédonie où ils étaient arrivés lundi. Ils ont eu de nombreux entretiens avec l'ensemble des groupes politiques, mais leurs échanges ont été entourés de la plus grande discrétion et n'ont fait aucune déclaration. D'après nos informations, la mission des trois facilitateurs s'est terminée sans avoir permis d'avancer sur le processus de Bougival.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure de votre rendez-vous SMS avec notre question du jour. Selon vous, les élus du Congrès vont-ils émettre un avis favorable sur le projet de loi d'organisation de la consultation des Calédoniens sur cet accord de Bougival ? Si vous pensez qu'ils vont émettre un avis favorable, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 31-46. Et puis la réponse à la question d'hier, 93% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS disent craindre que le retour de Christian Théin en Nouvelle-Calédonie crée de nouvelles tensions. Ils ne sont que 7% à ne pas le craindre. 2,2 milliards d'euros, c'est-à-dire 264 milliards de francs. C'est le montant de l'engagement financier de l'État sur 5 ans pour le pacte de refondation économique. Sébastien Lecornu a écrit aux élus la nuit dernière pour leur présenter les grandes orientations issues du travail de la mission interministérielle. L'objectif est de faire face à la crise économique profonde que connaît le territoire. Et c'est aussi, je cite, « une occasion historique de repenser en profondeur son modèle de développement et ainsi créer les conditions d'un avenir économique stable, durable et prospère », Nicolas Legrand.
Oui, une vision d'avenir ambitieuse pour le territoire. C'est ainsi que Sébastien Lecornu, le Premier ministre, décrit ce pacte de refondation économique qui repose sur 5 piliers. Le premier concerne l'attractivité. L'État s'engage sur les 5 prochaines années avec un soutien de l'ordre de 36 milliards de francs. Plusieurs points seront financés, comme des zones franches autour des ports et aéroports internationaux. L'État va aussi financer une exonération totale d'impôts pour les sociétés hors nickel, générant un chiffre d'affaires inférieur à 475 millions de francs environ. Et enfin, l'État interviendra via un mécanisme de solidarité nationale pour faire face aux difficultés d'assurabilité que l'on connaît actuellement. Et enfin, une défiscalisation exceptionnelle sera mise en place pour la reconstruction des bâtiments détruits pendant les émeutes de 2024. Le deuxième axe est dédié à la préparation de l'avenir avec des investissements structurants à hauteur de 24 milliards de francs sur 5 ans. L'objectif est de développer la pêche, l'agriculture ou encore le tourisme, désenclaver le territoire en sécurisant les transports avec la création de ponts et de routes, développer l'accès à l'eau et l'électricité, notamment dans les communes isolées et les tribus, ou encore à prévenir le risque lié au changement climatique. Quant au troisième volet, il porte sur le soutien à la filière nickel. Alors là, l'État ne s'engage pas pour un montant, mais demande à la Nouvelle-Calédonie de repenser son modèle. Sébastien Lecornu écrit qu'il est vain de financer chaque année les pertes d'usines non rentables et qu'il faut investir dans un modèle durable pour l'avenir. Les autorités locales compétentes devront donc élaborer un plan de transformation de la filière au courant du premier semestre 2026. L'État s'engage ensuite à accompagner financièrement les industriels durant cette période de transition et à participer notamment au financement des infrastructures destinées à décarboner le mix énergétique ou encore à offrir un coût de l'électricité compétitif aux usines. L'État s'engage notamment à financer la prochaine étude nécessaire à la réalisation de la STEP de Tontouta. Le quatrième point figurant dans ce pacte de refondation économique est consacré à la jeunesse. L'État financera un programme exceptionnel de lutte contre le décrochage scolaire et professionnel des 15 à 25 ans, doté de 8 milliards 350 millions de francs sur 5 ans. Il permettra par exemple la création d'une nouvelle compagnie du RSMA dans le Grand Nouméa, le financement de 1000 postes de service civique par an ou encore la création de 100 postes d'éducateurs spécialisés pour accompagner les jeunes en décrochage dans leur parcours de réinsertion. Et enfin, le pacte prévoit un soutien de l'État aux finances de la Nouvelle-Calédonie pour une période de 5 ans. Un nouveau prêt garanti par l'État de 36 milliards de francs sera inscrit au projet de loi de finances pour 2026. Une part allant jusqu'à 12 milliards de francs pourra être transformée en subvention si la Nouvelle-Calédonie vote un certain nombre de réformes. Et ensuite, une nouvelle enveloppe de 36 milliards de francs est prévue pour la période 2027-2031 pour financer les collectivités locales. Au total, ce sont donc 264 milliards de francs qui seront consacrés au pacte de refondation économique, auquel il faudra rajouter donc le volet nickel qui n'est pas encore évalué.
Et le Premier ministre Sébastien Lecornu apporte aussi des précisions sur les modalités de la mise en œuvre de ce pacte.
Oui, son gouvernement s'engage à proposer ou soutenir ces mesures dans le cadre du projet de loi de finances, c'est-à-dire que l'adoption dépendra du Parlement. De plus, ce pacte repose sur un engagement mutuel de l'État et de la Nouvelle-Calédonie. Le territoire devra mettre en œuvre les réformes nécessaires, indispensables au rétablissement de son économie, à retrouver un équilibre budgétaire et à se doter progressivement des moyens réels de son autonomie financière. Et à l'issue de cette phase de soutien exceptionnel et temporaire, je cite, « La Nouvelle-Calédonie devra être en capacité d'assumer seule le financement de l'ensemble de ses compétences. » Sébastien Lecornu insiste, à compter de 2030, l'État n'interviendra plus financièrement que dans ses domaines de compétences. Aucune subvention ne pourra ainsi être versée aux collectivités et aux entreprises en dehors de ce champ strictement défini.
Et l'annonce de détails de ce pacte de refondation économique a déjà suscité des réactions sur le territoire.
Oui, Sonia Baquès, la présidente de la province Sud, évoque sur sa page Facebook une excellente nouvelle. Je cite, « Il appartient aux élus de solidairement de travailler sur ce plan de soutien massif de l'État à la Nouvelle-Calédonie qui est nature à rassurer les Calédoniens dans une période encore très compliquée. » Fin de citation. Quant au député de la première circonscription, Nicolas Metzdorf, il affiche également sa satisfaction sur sa page Facebook. L'État vient de mettre sur la table l'un des plus gros plans de relance de notre histoire. Tout n'est pas parfait, mais le message politique est clair. La France est là. Il renvoie ensuite les élus au vote de lundi au Congrès sur l'organisation de la consultation citoyenne sur l'accord de Bougival. Et autre réaction ce midi, celle de Christopher Gigès, porte-parole du gouvernement, en charge notamment du budget et du secteur de l'économie. Il salue une annonce importante.
C'est une très bonne nouvelle d'avoir à la fois des montants sur les différents aspects, mais aussi de la visibilité sur plusieurs années. C'est ce qu'on demandait à l'État d'avoir un plan pluriannuel. Là, on est sur un montant qui est conséquent, plusieurs centaines de milliards CFP pour la Nouvelle-Calédonie, sur plusieurs aspects, sur le soutien aux entreprises avec des aides, notamment sur l'impôt sur les sociétés, sur une restauration de l'attractivité avec des zones franches, une réponse claire sur la partie assurantielle qui était attendue par les entreprises, mais aussi un accompagnement sur le budget des collectivités, ce qui est aussi essentiel pour nous pour boucler nos budgets. Sur un nouveau prêt de 300 millions d'euros, ça sera suffisant pour boucler le budget. Il faut vraiment qu'on soit sur cette enveloppe supplémentaire pour la Nouvelle-Calédonie. Mais en tout cas, oui, c'était une très bonne nouvelle pour la Nouvelle-Calédonie.
Et ce pacte de refondation économique est le fruit d'un long travail mené avec la mission interministérielle dirigée par Claire Durieux. Sa mise en œuvre est conditionnée, vous l'avez entendu, à la réalisation de réformes de la part de la Nouvelle-Calédonie. Christopher Gigès rappelle que le gouvernement en a engagé un certain nombre ces dernières années, mais la Nouvelle-Calédonie ne peut pas demander plus d'efforts aux Calédoniens en l'état.
On les fait les réformes, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui à plus de 50 milliards en deux ans de réduction des dépenses de la Nouvelle-Calédonie, c'est considérable et on a un dialogue permanent avec l'État, très exigeant, enfin, et j'ai pas caché le fait que parfois c'est des relations qui sont tendues avec la mission autour de ça, parce que quand on a perdu 13% de notre PIB, on peut pas demander encore plus aux Calédoniens, donc oui on va faire des réformes, oui on va baisser nos dépenses publiques, mais il faut aussi que l'État comprenne que on a connu une situation au niveau économique dramatique, on ne s'est pas encore relevé. Ce plan va nous permettre de nous relever plus vite, mais il nous faudra encore un peu de temps.
Dans son courrier, Sébastien Lecornu, le Premier ministre demande un retour aux élus sur ce projet de pacte de refondation économique. Le président du gouvernement, Alcide Ponga, va réunir les responsables politiques et d'institutions dès lundi pour évoquer ce pacte. C'est ce que nous a dit Christopher Gigès.
Il faut qu'on soit aussi les collectivités, les formations politiques et les différentes institutions en capacité d'apporter une réponse commune et immédiate à ce plan pour qu'il soit efficace. Donc Sébastien Lecornu nous a interrogé sur notre avis sur ce plan. Donc le président du gouvernement réunira les parlementaires, les présidents d'institutions, les formations politiques du Congrès et les maires lundi matin pour qu'on puisse évoquer tous ensemble comment on met en œuvre ce plan, comment on y répond collectivement. Je crois que c'est important.
Sébastien Lecornu, le Premier ministre, conclut son courrier en affirmant, je cite, que l'engagement de tous sera nécessaire pour permettre la mise en œuvre du pacte et pour assurer des retombées rapides et concrètes pour nos concitoyens calédoniens. Je compte sur votre entière mobilisation, conclut le Premier ministre.
11h41, la première pause de ce journal. On se retrouve dans un instant pour évoquer le reste de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Le jeu Mac Family Voyage revient chez McDonald's du 18 novembre au 12 janvier. Collectionnez les cartes Mac Family et tentez de gagner plus de 6 millions de francs de cadeaux. Au programme, 3 voyages de rêve à Tahiti, en Thaïlande et à la Gold Coast. Mais aussi des PC, des Samsung S25, des Nintendo Switch 2, des Boombox et des milliers de produits McDonald's. Alors, prêt à tenter votre chance? Rendez-vous dans votre McDonald's préféré.
Au cœur de Noël, une initiative de Radio Rythme Bleu parrainée par l'OPT avec le concours de la Croix-Rouge, de la Société Saint-Vincent-de-Paul, du Secours catholique et de la Table ronde française. Au cœur de Noël, c'est la part du cœur, la vôtre, la nôtre, pour que les enfants ne soient pas oubliés au soir de Noël. Au cœur de Noël, une belle histoire qui s'écrit grâce à vous. Tous les jours, de 7h30 à 19h, venez déposer à la radio, aux 4 rue de Sébastopol, vos cadeaux et jouets pour les enfants jusqu'à l'âge de 16 ans. Au cœur de Noël, avec RRB.
Pour un maximum de fraîcheur au jardin, craquez pour notre piscine Best Way, 305 cm de diamètre. Du 1er au 31 décembre, elle est à seulement 12 990 francs. Dépêchez-vous de passer un été ensoleillé, les pieds dans l'eau. Avec Jardiland Nouvelle-Calédonie, vos économies commencent ici.
Jardiland. Cultivez votre bien-être.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Baudin.
À l'île des Pins, l'incendie qui s'est déclaré en début de semaine continue de ravager la végétation. L'incendie qui a dégagé beaucoup de fumée. Nous venons de faire le point avec le capitaine Alexandre Rossignol. C'est l'officier communication de la DSCGR, la direction de la sécurité civile et de la gestion des risques.
On se concentre sur le nord vers l'aérodrome, qui est toujours un point chaud pour nous. Donc on a des équipes qui sont en contact avec les deux hélicoptères bombardiers d'eau pour éviter qu'ils sautent la route et qu'ils aillent vers l'aérodrome. Actuellement, on a une vingtaine de sapeurs-pompiers, sécurité civile et SSLIA de l'île des Pins, ainsi que de la province sud, qui a mis à disposition deux véhicules porteurs d'eau avec des cuves agricoles qui nous aident beaucoup. Et puis une association de jeunes de l'île des Pins, une soixantaine de jeunes qui donnent la main à noyer les points chauds et à gratter les foyers résiduels. Donc c'est vraiment cette aide communautaire et de la population qui est aussi la bienvenue. Ouais. Le dispositif, il est reconduit jusqu'à lundi et dimanche, on fera le point sur la reproduction d'un dispositif à l'identique pour les jours à venir.
Et cet incendie de l'île des Pins a déjà détruit plus de 1000 hectares de végétation. 448 millions de francs pour la ville de Nouméa, c'est le montant du fonds de solidarité républicaine qui sera versé à la municipalité avant la fin de son exercice 2025. Ce fonds versé sous forme de subvention par la Nouvelle-Calédonie découle en fait du prêt garanti par l'État. La convention de financement qui permet à la ville de percevoir a été signée hier soir lors du conseil municipal. Compte tenu des délais, cette subvention ne pourra pas être utilisée avant 2026, mais elle est tout de même d'une grande aide, ce nous a dit le maire de Nouméa, Sonia Lagarde.
Ces fonds sont observés par l'État et donc on fait attention à cet argent. On doit lister toutes les interventions qu'on doit faire. En fait, il y a plusieurs volets. Il y a à la fois les sports, la jeunesse, il y a les actions sociales. Il y a le transport aussi, mais qui échappe aux communes parce que ça part au SMTU. Et puis les écoles aussi. Ça va permettre de faire des actions nouvelles quand même. Ça va pouvoir nous conforter parce que vous savez quelle est la difficulté des communes aujourd'hui où on a de moins en moins d'argent. Et donc, on va pouvoir maintenir, alors qu'on réfléchissait à faire des économies sur des actions vis-à-vis de la jeunesse, par exemple. Donc, c'est quand même une manne intéressante qui nous arrive comme ça de l'État. Et j'espère que ça pourra se poursuivre l'année 2027.
Le prochain conseil municipal de Nouméa se tiendra le 17 septembre et les élus examineront le budget primitif 2026 de la commune. La reconstruction du territoire se poursuit près de 18 mois maintenant après les émeutes qui ont ravagé entre autres le site de Dognambrou à proximité du rond-point de Maginco. Les travaux de démolition et de reconstruction des bâtiments du quartier ont été officiellement lancés aujourd'hui, Léana Colombo.
Il s'agit d'un des premiers grands chantiers de réhabilitation lancés par le gouvernement et l'État depuis mai 2024, en plus du lycée Petro Atiti et du centre d'accueil de Nouville situé derrière le CFA. Le site de Dognambo a été lourdement dégradé et incendié, devenant inexploitable pour les services du gouvernement travaillant ici. Des dégâts trop importants sur les structures qui nécessitent une démolition et une reconstruction totale des bâtiments. Mais ce chantier, prévu pour être achevé en 2027, devrait aider à la relance de l'économie, explique le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, Alcide Ponga.
Ça va permettre de remettre de l'essence dans l'économie. Mais quand on remet de l'argent dans l'économie, on réalimente aussi les ressources fiscales de la Nouvelle-Calédonie, on réalimente les caisses sociaux, on réalimente les commerces, parce que ce sont des travailleurs qui vont toucher des salaires, qui vont consommer. Donc là, on est sur des chantiers qui sont lancés par le public, mais il y a également des chantiers qui sont lancés par le privé. Et je pense certainement que l'année prochaine, il y a aussi d'autres chantiers qui seront lancés aussi par le public et par le privé pour qu'on puisse reprendre le cours de la vie normale.
Était présent aux côtés d'Alcide Ponga pour ce lancement officiel de l'opération de démolition et de reconstruction. Le membre du gouvernement en charge du secteur, Petelo Sao, mais aussi le haut commissaire Jacques Billan. Il s'agit pour lui d'une course contre la montre pour restaurer l'économie calédonienne.
Pour nous, il s'agit d'instruire au plus vite tous les dossiers qui nous sont déposés par les collectivités. Et à l'heure actuelle, ce sont 80 dossiers qui ont été instruits par les services du Haut Commissariat depuis le début de l'année. Et ça représente un montant de 12,3 milliards de francs de subventions allouées par l'État aux collectivités, avec une prise en charge des chantiers de reconstruction ou de réhabilitation des bâtiments publics à hauteur de 80% et de 100% pour les établissements scolaires, comme le lycée Pedro Atiti, visité avec la ministre des Outre-mer le 14 novembre dernier.
Coût des travaux pour ce chantier, 630 millions de francs, 328 millions financés par le gouvernement et le reste, soit 302 millions, proviennent de l'accompagnement de l'État. Une longue série d'autres travaux de reconstruction étalés sur 3 ans devraient voir le jour un peu partout sur le territoire.
La suite de l'actualité en Nouvelle-Calédonie avec deux cérémonies ce matin. Place Bir Hakeim pour la première, à la caserne Meunier pour la seconde, Lionel Sabot.
À Place Bir Hakeim, les autorités civiles et militaires se sont retrouvées pour célébrer les morts pour la France en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Cérémonie présidée par Anaïs Aït Mansour, directrice de cabinet du haut-commissaire, en présence de Sonia Lagarde, maire de Nouméa, de Nadine Jalabert, qui représentait le congrès de la Nouvelle-Calédonie, de Julien Tranap, qui représentait la province sud, des représentants des forces armées en Nouvelle-Calédonie, et de la gendarmerie et des associations mémorielles. Écoutez Anaïs Aït Mansour, directrice de cabinet du haut-commissaire.
C'est l'un des derniers grands conflits où il y a eu autant de jeunes français qui sont allés servir sous le drapeau avec les volontaires, les appelés du contingent et les militaires de carrière. C'est un conflit majeur dans l'histoire contemporaine. Il nous faut transmettre ce devoir de mémoire et se remémorer tous ces sacrifices pour la France qui ont été faits durant ces années.
Autre cérémonie, vous le disiez, au sein de la caserne Meunier, non loin de la place Bir Hakeim. Il s'agissait là de la cérémonie de sortie de formation de la 16e promotion des gendarmes adjoints volontaires. Écoutez le colonel Lesage, le commandant en seconde de la gendarmerie de Nouvelle-Calédonie.
Pour nous, c'est très intéressant parce que c'est le symbole de la jeunesse. La moyenne d'âge, c'est 22 ans de cette promotion. Donc quand ils arrivent, c'est la relève, la jeunesse, le dynamisme. Et ils épousent le métier de gendarme. Ça a été l'occasion aussi, cette cérémonie, de faire des remises de décorations, de lettres de félicitations et de témoignages de satisfaction, notamment de gendarmes adjoints volontaires, ce qui leur permet eux aussi, aux jeunes, de s'identifier à ce que, aux actes qu'ils pourront réaliser très prochainement lorsqu'ils seront dans les unités.
Et j'ajoute que cette 16e promotion compte 20 gendarmes adjoints volontaires. Tous vont désormais intégrer les différentes unités de la gendarmerie nationale en Nouvelle-Calédonie.
Un dépistage rapide qui peut changer une vie. Le réseau de l'insuffisance rénale en Nouvelle-Calédonie souhaite alerter la population sur la maladie maladie rénale chronique. Elle invite pour cela à se faire dépister et une journée de sensibilisation sera d'ailleurs organisée mercredi prochain à la clinique Windomania, Charlotte Coulson.
C'est une pathologie grave et longtemps silencieuse. La maladie rénale chronique touche beaucoup de personnes en Nouvelle-Calédonie. Au moins 700, c'est le nombre de patients dialysés sur le territoire. Et chaque année, une centaine de personnes rejoignent le service. La prévalence de la maladie est en réalité 3 fois supérieure à celle de la métropole. Il faut être prudent car elle peut toucher tout type de personnes, comme l'explique Caroline Mesguen, néphrologue à l'unité de néphrologie de Nouvelle-Calédonie.
Ça touche vraiment des populations très larges parce qu'en fait, on a des patients âgés, des patients diabétiques, hypertendus, mais la population connaît moins les maladies génétiques qui existent, comme la polykystose rénale, le lupus également, qui est une maladie auto-immune qui existe sur le territoire. Donc on a des patients de 20 ans à 90 ans ou plus. Les symptômes arrivent souvent quand on a environ moins de 20% de fonction rénale et c'est très aspécifique, c'est-à-dire ça va être de la fatigue, des crampes, une perte d'appétit, éventuellement un essoufflement ou un gonflement des jambes. Donc c'est vraiment quelque chose qui ne va pas vous informer sur le fait que ce sont les reins qui sont malades en fait. Il va falloir vraiment faire la prise de sang avec le médecin généraliste pour aller explorer ça.
La maladie rénale chronique est donc pendant longtemps asymptomatique, d'où l'importance de se faire dépister pour éviter notamment la dialyse ou même la greffe de rein qui reste des traitements lourds. C'est pourquoi le RESIR organise avec l'unité de néphrologie de Nouvelle-Calédonie et la clinique Quindomania une journée de sensibilisation mercredi prochain. Delphine Butita est infirmière coordinatrice du RESIR.
En Nouvelle-Calédonie, il y a 2/3 des personnes dialysées qui souffrent de diabète. Donc on sait que le diabète induit une souffrance au niveau rénal. L'hypertension induit également une souffrance au niveau des reins. Donc on est dans le dépistage du diabète, de la tension, des facteurs de risque, donc qui peuvent être des antécédents familiaux, d'autres maladies comme l'hypercholestérolémie, la goutte. Voilà, on essaie de répertorier et de voir si la personne est susceptible d'avoir un problème au niveau des reins. Le dépistage est rapide, on le fait sous forme de consultation infirmière. Donc c'est totalement confidentiel, ça dure 10 minutes, c'est indolore et totalement gratuit.
Rendez-vous donc mercredi prochain, le 10 décembre, de 8h à 16h à la clinique Quindomania de Nouville.
Au cœur de Noël avec l'OPT. Pour que Noël soit une fête pour tous.
Dans 20 jours maintenant, c'est Noël, alors ne tardez pas, votre générosité s'est déjà exprimée à de nombreuses reprises puisque vous êtes nombreux à passer à la radio pour déposer des cadeaux pour les enfants des familles en difficulté. Vous le savez, c'est notre grande opération du cœur. Noël, c'est donc dans 20 jours, donc n'hésitez pas, passez à la radio, venez déposer des cadeaux. Ils seront tous distribués grâce à nos partenaires Croix-Rouge, Société Saint-Vincent-de-Paul et Secours catholique aux enfants des familles en difficulté. Une opération du cœur pour laquelle vous êtes généreux chaque année. On vous remercie de nous aider cette année encore et on compte sur vous. Vous pouvez passer à la radio de 7h à 19h tous les jours, mais aussi déposer vos cadeaux au magasin Petit Dôme, route de Lanzvata, qui est partenaire de cette opération depuis 14 ans maintenant. Merci à tous. Une nouvelle pause dans ce journal et on voit dans un instant l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
La ville de Nouméa organise une collecte de jouets de Noël et de téléphones usagés jusqu'au 5 décembre à la mairie annexe Ferry située au centre-ville.
Si vous avez des jouets que vous n'utilisez plus, des associations caritatives les récupéreront pour les réutiliser.
Vous avez un téléphone qui ne fonctionne plus ou qui n'a plus de valeur marchande ? L'éco-organisme Trécodec le reprendra pour le recycler.
Les jouets ou téléphones usagés que vous souhaitez donner seront à déposer dans les bornes prévues à cet effet au rez-de-chaussée de l'annexe Ferry située au 29 rue Jules Ferry. Ouvert du lundi au vendredi de 7h15 à 15h30. Fermé le week-end.
Ville de Nouméa, partageons l'événement.
Faramédée, si loin, mais si près. Décompressez avec le Maridée. Réservez votre place sur amedeeisland.com.
Toute l'info en trois lettres. RRB.
La suite d'Infomag avec l'actualité en métropole. On retrouve Jean-François Bodin. Une nouvelle flambée de violence contre les forces de l'ordre. Cette fois-ci, ça s'est passé à Castres. Des policiers ont été pris pour cible, visés par des tirs de carabine dans un quartier sensible de la ville. 3 fonctionnaires ont été légèrement blessés. C'est une nouvelle fois un affrontement entre 2 bandes rivales sur fond de narcotrafic qui est à l'origine de cette violence. Une enquête pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique a été ouverte. Jean-Baptiste Marty pour Europe 1.
Une véritable guerre de territoire. Selon plusieurs sources policières, la ville de Castres est confrontée depuis plusieurs mois à des affrontements entre membres de la DZ Mafia marseillaise et des narcotrafiquants toulousains, des organisations criminelles qui tentent de s'emparer des points de deal de la ville, là où le trafic de drogue prospère. En témoigne cette fusillade hier soir, la seconde en trois jours, puisque déjà dimanche soir, une dizaine de jeunes munis de carabines et d'armes de guerre ont tiré sur un bâtiment de ce même quartier. Patrick Batigne, policier à Castres et représentant syndical Alliance, tire la sonnette d'alarme avant que la situation ne devienne hors de contrôle dans cette ville d'environ 40 000 habitants.
C'est comme on voit un petit peu partout en France, mais ce qui se passait dans les grandes villes arrive petit à petit dans les villes de moyenne importance, et c'est pour ça que Alliance demande des renforts en effectif sur Castres.
Selon les informations d'Europe 1, la directrice de la police du département, Sophie Généreul, réclame en urgence le déploiement de la CRS 8, une unité spécialisée dans les violences urbaines.
Deux ans après les violences à Sainte-Soline, plusieurs plaintes déposées par des militants écologistes contre des gendarmes ont été classées sans suite. Les forces de l'ordre étaient intervenues, on s'en souvient, pour disperser des centaines de manifestants opposés à un projet de méga-bassine et les affrontements avaient été violents. La poursuite de l'examen du budget de la Sécurité sociale à l'Assemblée nationale, rien ne dit qu'il sera voté, alors que les députés Horizon et LR menacent maintenant de lâcher l'exécutif. Le Premier ministre est donc intervenu dans l'hémicycle pour répondre aux critiques et notamment celles des Insoumis qu'il accuse de chercher le chaos.
C'est tout de même bizarre de voir des parlementaires en train d'expliquer qu'au fond, qu'il n'y ait pas de loi, ce n'est pas grave, ça n'a aucune conséquence, ça n'a aucune incidence. La réalité, c'est que c'est le monde à l'envers. C'est que nous sommes en train de défendre les prérogatives du Parlement.
Et dans ce contexte, pas sûr que le volet recette du projet de loi soit adopté d'ici la fin de la semaine. Après l'incarcération de Boualem Sansal en Algérie, c'est le sort de Christophe Glaize qui préoccupe les autorités françaises. La peine de 7 ans de prison prononcée contre ce journaliste sportif de 36 ans accusé d'espionnage a été confirmée en appel il y a 2 jours. Et pour obtenir sa libération, l'Élysée opte une nouvelle fois sur la stratégie du dialogue. Alexandre Chauveau pour Europe 1.
L'enjeu pour la France, c'est désormais d'obtenir la grâce présidentielle d'Abdelmadjid Tebboune. Comme pour Boualem Sansal, Paris veut croire que seul le dialogue peut aboutir à une libération et se refuse pour l'instant à tout bras de fer. Laurent Nunez redit ainsi sa volonté de se rendre en Algérie à l'invitation de son homologue, officiellement pour des questions techniques sur la sécurité et l'immigration. Mais le ministre de l'Intérieur confirme que la libération du journaliste français est un élément majeur des discussions en cours entre Paris et Alger. Un rapport de force que la condamnation de Christophe Glaize fait clairement pencher en faveur d'Alger, selon Xavier Driancourt, ancien ambassadeur français en Algérie, invité de Christine Kelly sur Europe 1.
C'est un avertissement aussi à la France pour montrer à Paris que même si Boualem Sansal a été libéré et gracié, on ne remet pas les compteurs à zéro. C'est pour montrer qu'Alger reste le maître des horloges dans la réconciliation franco-algérienne.
Et pour rappel, Emmanuel Macron s'était dit disponible pour échanger avec le président algérien le mois dernier, mais la rencontre, un temps pressentie au G20 en Afrique du Sud, n'a finalement jamais eu lieu.
Dans un instant, une page consacrée à l'actualité sportive pour refermer ce journal. Ce sera ensuite le magazine Transparence.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Chez Maison Thirier, la magie des fêtes commence dans votre assiette. Vivez des fêtes sensationnelles avec l'incroyable collection de fin d'année. Entrées raffinées, plats gourmands et bûches glacées. Tout pour transformer vos moments en famille en instants magiques. Retrouvez-nous dans nos 4 magasins. Ansvata, Faubourg Blanchot, Magenta et Apogoty. Maison Thirier, la magie des fêtes à portée de main. Seul le bon crée du bonheur.
Vous rêvez d'une nouvelle cuisine? DCSM vous propose des cuisines à votre style, adaptées à votre intérieur. DCSM, c'est des cuisines de qualité pour tous les budgets.
Venez découvrir votre future cuisine dans notre showroom, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
Rendez-vous samedi 6 décembre, parc provincial de la Rivière Bleue pour une grande journée porte ouverte. Venez redécouvrir le Grand Sud, ses activités et ses paysages magnifiques. Au programme, initiation sportive, marché, rencontres et belles surprises. L'entrée est gratuite et les navettes aussi. N'oubliez pas, c'est le 6 décembre au parc provincial de la Rivière Bleue. Toutes les infos sur province-sud.nc. La Province Sud, agir pour l'avenir.
Tout le sport en 3 lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Et on va commencer par le handball et la suite des championnats du monde des dames. L'équipe de France a fait ce matin un grand pas vers la qualification pour les quarts de finale de la compétition, Lionel Sabour.
Oui, ce matin, les Bleus sont imposés non sans difficulté et avec deux buts de Suzanne Wojcicka face à l'Autriche, score final 29-17 et ont parfaitement démarré le tour principal de ces championnats du monde. Un succès contre l'Argentine demain et les champions du monde en titre, qui sont en tête de leur groupe, pourraient valider déjà leur billet pour la phase des matchs couperets. Après le match de demain face à l'Argentine, les Françaises auront une nouvelle chance de se qualifier pour les quarts. Ce sera lundi face aux Pays-Bas, l'un des pays organisateurs. Puisqu'on parle des pays organisateurs, l'autre pays, l'Allemagne, a de son côté validé son billet pour les quarts de finale déjà après sa victoire 36-16 sur le Monténégro.
Et puis on va terminer avec un mot de squash sur le territoire avec les demi-finales de l'Open International BNP Paribas. Un tournoi organisé en hommage à Enzo Corigliano. Les demi-finales se joueront donc ce soir et les favoris sont au rendez-vous. À 19h40, le Britannique tête de série numéro 1, Freddie Jameson, rencontrera le numéro 1 calédonien Nicolas Masney. À 20h20, le Samoan Mason Smain s'affrontera le Néo-Zélandais Will Donnelly. Il est très exactement midi. Merci de votre attention. C'est la fin de ce journal.